France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut partir désormais de cette catastrophe si lente à venir, de cette catastrophe qui n'est souvent que la continuation du pire. Walter Benjamin sentait désormais l'impatience et la brusquerie comme un chien à vos basques. Il faut partir au plus vite. Nous sommes le 15 juin 1940 et le philosophe juif qui, tant de fois, avait dû, dans la hâte, se séparer de ses livres, de ses manuscrits, de ses images, glisse dans une mallette qu'il prend avec lui le manuscrit de ses thèses sur le concept d'histoire et dans une valise qu'il laisse après lui, une aquarelle de Paul Klee, l'Angelus Novus, qui depuis qu'il en fit l'acquisition en 1921 soutient ses pensées, ses rêves et ses espérances. La mort va donc séparer le texte et l'image, mais l'image ne peut plus se voir sans ce texte. Bloc de prose poétique qui est placé sous l'œil de cet ange enfantin, à la bouche gourmande, les yeux ouverts, les ailes déployées, mais au sol, et que Walter Benjamin appelle l'ange de l'histoire. Concilier la mélancolie politique et la joie de l'immanence quand l'ange est tombé à nos pieds, on fait comment ? La question est donc celle-ci. Si une seule description peut condenser tant de philosophie, si l'on peut penser par image, et si, face à l'ange des possibles, on peut, entre deux catastrophes, prendre le temps, non pas prendre tout son temps, mais s'en saisir, enfin, alors le fait d'y aller voir prend un autre sens. On en parle avec Georges Didier Huberman et Jeanne-Bathilde Lacour, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Julia Pouma.
Angelus Novus, c'est une image de pensée. On va dire que tout le travail de Klee, c'est une image de pensée. Ce sont des images de pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'abord, en général, c'est quand même d'assez petit format, format petit et moyen. Ensuite, pour moi, Klee, c'est un travail qui se fait à la table. Et donc, si c'est à la table, c'est un travail de pensée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une Klee employé une infinité de techniques, quoi. C'est très, 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 très varié, très riche. Mais c'est quelqu'un qui essaye beaucoup, d'abord. Qui essaye des techniques, des textures, des matières, etc. Donc il est quand même assez prodige dans ce sens-là. Mais quand on voit un Klee comme ça, dans une grande expo, on tombe sur un tableau de Klee, ça n'a rien à voir avec le reste parce que c'est quelque chose dans lequel il y a une concentration à la fois technique, mentale, poétique, sentimentale, etc. quoi. Donc il y a quelque chose qui est très très ramassé comme ça dans l'œuvre de Klee. C'est pour ça que c'est quand même assez unique, quoi.
Vous venez d'entendre Jean-Michel Alberola, c'était dans Les Regardeurs en 2016. Jeanne-Bathilde Lacour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en charge de l'art moderne du LAM à Villeneuve-d'Ascq. C'est un musée formidable, très ouvert sur la société, sur l'université aussi. Vous êtes d'ailleurs actuellement commissaire d'une exposition hors les murs nommée État limite qui explore le thème de la catastrophe à partir notamment de l'œuvre de Christine Descuites. Mais nous vous avons invité également. Il s'agit de catastrophe, mais également parce que vous avez été co-commissaire de plusieurs expositions, dont Paul Klee, Entre-Monde, en 2021, et Chercher l'or du temps, en 2022. Vous travaillez sur le surréalisme, l'art brut, l'art naïf, mais aussi l'art magique. Penser par image, ce peintre à la table, j'ai eu l'impression que ça vous disait quelque chose.
Oui, bah c'est une question qui nous travaille au LAM et puis qui me travaille moi aussi personnellement. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on s'attache à replacer les artistes dans ce qu'on pourrait appeler leur culture visuelle et à montrer qu'ils sont pas que des figures héroïques isolées du monde dans lequel ils vivaient, mais qu'ils ont bien vu et bien affronté leur contexte et les catastrophes auxquelles ils ont eu à faire face, en ce qui nous concerne, pour les artistes de l'art moderne, souvent.
Bonjour Didier Huberman.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, historien de l'art, un de nos très grands historiens de l'art, directeur d'études à l'EHESS, auteur d'une œuvre considérable, d'une cinquantaine d'ouvrages. Dit comme ça, c'est très intimidant, mais on peut quand même un peu apprivoiser son effroi face à une science si profonde.
Il n'y a aucune raison. Hein.
Bah si, quand même. Non, ce qu'il faut, dans ce cas-là, si ça impressionne, c'est de dire, finalement, il y a toujours des images qui reviennent, il y a toujours des petites ritournelles de livre en livre. Récemment, il y a deux images qui sont revenues. Celle de Saint-Georges et le dragon, celui par qui s'ouvre la terre. C'est un texte ancien, 1994, qui revient chez Gallimard. Et puis, les anges de l'histoire, image des temps inquiets, paru chez Minuit. Eux, ils reviennent aussi, mais où ils répondent peut-être. À quoi ? Survivance des Lucioles, ça c'était 2009. C'est quoi l'actualité, au fond, aujourd'hui, de revenir devant cette image ?
Vous avez commencé en disant que Walter Benjamin, il vivait entre catastrophes. Oui. Il y a la catastrophe de la Première Guerre mondiale, il y a celle de la Deuxième Guerre mondiale. En 1939, il vit comme un drame absolu le pacte germano-soviétique, parce que les antifascistes à cette époque-là, ils étaient quand même en général communistes. Et là, voilà. Et le texte est né de ça, le texte de Benjamin. Alors, qu'est-ce qui revient là ?
Des temps inquiets. Bon,
alors le Saint-Georges, c'est une réédition. Je l'avais pas relu depuis 94. J'ai été surpris de trouver des thèmes qui sont très présents pour moi aujourd'hui, à savoir la question du théologico-politique. Qu'est-ce qui fait que il y a tellement de théologie dans la politique aujourd'hui, ce qui me semble être une des catastrophes,
oui.
En l'occurrence.
Ça, c'était dans Survivance des Lucioles. Déjà,
oui, alors dans Survivance des Lucioles, il y a un début de critique de ça. Il y a une critique de ça assez poétique et assez liée à Pasolini. Et là, je m'attaque à quelque chose de plus redoutable, parce que quand on lit dans Benjamin, dans ses fameuses thèses, qui ne sont pas des thèses d'ailleurs, sur le concept d'histoire... Il y a cette question du messianisme et tout ça. Oh là là, ça fait un peu peur. On se dit, on va laisser ça de côté pendant un moment. On le laisse de côté pendant quelques années. Et puis finalement, on s'y confronte. Et on voit que c'est complètement d'actualité, malheureusement.
Et le messianisme, évidemment, on va en parler. Mais quand Walter Benjamin avait peur, il regardait des images. Et il les regardait avec une soif, une espérance toute enfantine. On peut commencer par décrire, on va la décrire telle qu'il l'a décrit, mais avant la voir, nous, aujourd'hui, indépendamment de son magnifique texte, qu'est-ce qu'on dirait de cette aquarelle si fragile, Jeanne-Baptiste Lacour ?
Eh bien, on peut commencer par rappeler déjà que c'est une œuvre d'assez petit format, en fait. C'est, je crois, à peu près 25 cm de haut, dans laquelle flotte, dans un espace totalement indéterminé, une figure qu'on identifie comme un ange, parce que Paul Klee lui-même l'a intitulé Angelus Novus, mais qui, en vérité, ressemble peut-être plutôt à un hybride entre un humain, en tout cas il a bien une tête d'être humain, et puis un oiseau. Parce que tout le corps de cet ange, qui est d'ailleurs un petit peu disproportionné par rapport à sa tête, évoque un oiseau. Il a des pattes avec des sortes de serres, et puis il a bien des ailes, qui d'ailleurs peuvent faire penser à des ailes d'avion, en fait, vues du dessus. Et puis le bout de ses ailes se termine par cinq... sorte de tuyaux, de cônes qui peuvent quand même faire songer à des mains.
Oui. Et puis il y a ses yeux et sa bouche, ça on en reparlera, et on en reparlera avec vous parce que vous les connaissez bien, les anges de Paul Klee. J'ai une question à vous poser, Georges Didier Huberman. Vous arrivez à regarder cette image sans penser à Benjamin en produisant une autre description ? C'est possible ?
Complètement.
Alors qu'est-ce que vous diriez?
Oui, c'est possible parce que Benjamin la narrativise à son gré et que c'est pas fatalement une description de l'image qu'il fait. Hein.
Ouais, c'est autre chose.
C'est une narration allégorique en quelque sorte.
On le dira tout à l'heure.
Et moi je l'ai vue une fois. Elle est exposée à Jérusalem parce que elle avait été léguée par Benjamin à son ami Gershom Scholem. Donc on la trouve à Jérusalem.
Elle est très fragile. Hein, c'est
elle est très fragile. Elle circule jamais ou presque jamais. Elle a été montrée récemment à Berlin, oui, au musée Bode. Alors oui, j'abonde dans ce que vous avez dit, madame, parce que en effet, premièrement, il est petit. C'est très important le rapport qu'on a de notre propre corps à une image. Donc il a une petite tête. Il a une petite tête, comme on dit, voilà, hein, comme ça. Et puis quand vous dites qu'il flotte, ça veut dire aussi, on a toujours envie spontanément d'isoler une figure du fond et de décrire la figure et d'oublier le fond. Il se trouve que dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres chez Paul Klee d'ailleurs, figure et fond sont complètement... C'est une sorte de diaphanéité comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Qu'est-ce que vous voyez dans le fond?
C'est-à-dire que si vous regardez au niveau des épaules, par exemple, ou de ses joues, c'est la couleur du fond.
C'est-à-dire
le fond transparaît partout dans la figure. Et c'est ce que disait Paul Klee lui-même dans ses théories de l'image. Il parlait jamais de gestalt. Il parlait toujours de gestaltung. C'est-à-dire, la question, c'est la formation. C'est comment ça se forme. Alors là, ça se forme depuis cette espèce de fond étrange. Les cheveux, si on peut appeler ça des cheveux, sont complètement enfin, il y a une sorte de diaphanéité. D'ailleurs, les cheveux ne ressemblent pas à des cheveux. Ils ressemblent à des... Pour moi, ils ressemblent à des pages de livres.
Voilà.
En fait. C'est une des raisons qui ont pu fasciner Benjamin dans cette image. Et puis, il est d'une ambiguïté totale. Il est de face. Il est face à nous, mais il regarde de côté. On ne sait pas s'il a une blessure sur la bouche ou s'il sourit.
On ne sait pas s'il monte ou s'il descend.
Oui.
Oui.
Oh, il est descendu quand même. Enfin, en tout cas, il a les ailes déployées.
Vous parliez d'elle, oui.
Non, c'est pas des ailes?
C'est des 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 doigts qui ne sont pas des doigts. Mais voilà, c'est ça l'image. C'est ça qui est...
Moi, je trouve que ses ailes déployées, moi, j'arrive pas à déterminer s'il est en train de piquer. Alors, certes, il a la tête vers le haut, mais je trouve que quand on regarde vraiment le corps et la manière dont les ailes se déploient, je trouve qu'on voit vraiment, on a l'impression de voir un avion en train de piquer au sol.
Alors un avion, ça c'est
alors,
intéressant
avion, ça,
parce
c'est
que les avions,
oui,
ils sont dans votre livre.
Bien sûr, ils sont à la même époque. Il y a le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la guerre technologique, les avions, les gaz, etc. Tout ce dont parle Benjamin par ailleurs.
Cette génération a vu des anges tomber du ciel en somme.
Tout à fait.
Et Klee aussi en particulier, parce que Klee, il a été mobilisé dans l'armée du Reich en 1916 parce que son père était allemand, même si lui était d'origine suisse. Et il a été mobilisé d'abord dans un chantier d'aviation, puis dans une école de pilotage. Et l'une de ses missions, à un moment, était de faire des rapports sur les élèves pilotes. Et il a notamment assisté au crash d'un de ses élèves pilotes, dont il a fait mention dans sa correspondance.
Alors écoutez, sur Klee, justement, sur son œuvre et sur sa manière de produire des images de pensée pour la pensée, écoutez ce qu'en disait Michel Sefort sur France Culture en 1977.
Je crois que, bon, si vous me permettez, qu'il faut raconter une anecdote qui m'a été contée par Baumeister. Baumeister, le grand peintre allemand, qui est mort maintenant aussi, ils sont tous morts. Il était très lié avec Klee depuis la jeunesse. Et il arrivait un jour dans l'atelier de Klee, à côté du Bauhaus à Dessau. Et comme toujours, il y avait dans l'atelier, l'atelier était de petite dimension, c'était en somme une petite chambre. Il y avait 5 ou 6 petits chevalets qui se trouvaient presque en demi-cercle les uns à côté des autres, des petits chevalets. Et sur chaque chevalet, il y avait une œuvre. Klee travaillait à ces 5 ou 6 œuvres à la fois. Ça, c'est déjà très typique. Et le Baumeister voit les... Il connaît cela, il savait très bien que Klee travaillait à plusieurs choses à la fois, que c'était son habitude. Mais il y avait quelque chose qui lui tenait à cœur. Il dit à Klee, est-ce que tu détruis beaucoup? Et Klee, à sa stupéfaction de Mondrian, lui répond, moi, jamais. Comment, dit Baumeister, comment est-ce possible avec tout ce que tu fais? Moi, je détruis beaucoup, détruis autant que je fais, presque, énormément. Bah, jamais, dit Clay, je continue. Je continue. Je finis toujours par en faire quelque chose, dit-il. Voilà Clay.
Voilà Clay.
Magnifique.
Je continue.
Oui.
Georges Duberman.
Eh bien, l'une des approches possibles de cette œuvre, qui n'a pas été du tout le cas des commentateurs de Benjamin, qui ont regardé Angelus Novus et rien d'autre.
Oui.
En fait, il faut regarder la série. Il y a une série extraordinaire d'anges. Et la série, c'est le principe structural de base, hein. La série nous dit quelque chose de cette œuvre elle-même, sans lever pour autant son ambiguïté, parce que son ambiguïté, c'est justement ça qui fait sa richesse, hein, sa beauté. Et voilà le problème que vous posiez au début, hein, penser par image ou image de pensée. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Alberola dans votre extrait. Le problème étant que dans la pensée, on a l'habitude de séparer le sensible et l'intelligible. Hein. C'est une grande tradition occidentale. Et donc, il faut trouver la dialectique entre tout ça. Voilà, c'est très difficile.
Et pour quelqu'un comme Benjamin qui voulait penser poétiquement, évidemment, les images où s'arrête le flux de pensée, c'est important. Mais c'est important, Jeanne Bathilde de la court précisément parce que l'image n'est pas seule, on l'a bien entendu, c'est une série, Les Anges de Paul Klee, vous en avez fait l'inventaire.
Alors c'est pas moi qui l'ai fait ce soir.
Vous pouvez en parler en tout cas.
Je peux en parler, mais il y a eu une très jolie exposition aussi au Centrum Paul Klee de Berne il y a quelques années sur les anges, et ils ont une importante collection de son œuvre. Mais des anges, oui, chez Klee, en fait, il y en a vraiment dès le début et le tout début, parce que le premier identifié, en fait, c'est un dessin d'enfant qu'il a réalisé en 1884, quand il avait 4-5 ans. Alors, pour être très précise, c'est plutôt un Christkindl, donc c'est un enfant Jésus qui apporte les cadeaux à côté d'un sapin de Noël. Et je le mentionne, parce qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais Klee a intégré ses propres dessins d'enfant dans son catalogue raisonné. Et puis ensuite, il y a un autre ange qui apparaît plus tard, en 1913, qui apporte l'objet du désir. Alors c'est peut-être une nouvelle réinterprétation du Christkindl. Il y a bien sûr cet Angelus Novus, mais la plus grande quantité d'anges qu'on va trouver chez Klee, ça sera vraiment à la fin, dans les années 39-40, à une époque où il est très malade. Donc il y a la catastrophe intime qui fait écho à la catastrophe mondiale, dont il a été victime lui-même depuis déjà plusieurs années, puisqu'il a dû quitter l'Allemagne et l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir. Mais donc, pendant cette année de 39, il est extrêmement productif et il réalise des dizaines d'anges.
Oui.
Des dizaines d'anges qui sont toujours accompagnés d'un titre très savoureux.
Allez, on va en écouter entendre quelques-uns. Oui, on va en écouter. C'était un documentaire de Stéphanie Katz, Les Anges de Klee, France Culture, toujours en 1993.
Comme un cygne, avant le dernier envol, métamorphose du point gris en figure d'ange, du point de bascule en figure de passeur, d'un seuil invisible en annonciation du visible. Le vieil ange avisé, l'angelus novus, l'ange oublié, l'ange inachevé, l'ange qui apporte ce qui est demandé, l'ange encore féminin, l'ange au grelot, l'ange laid, l'ange de la mort, l'ange de l'étoile, l'ange doutant, l'ange oublieux, l'archange.
Et l'angelus novus, alors, celui que Walter Benjamin gardait si précieusement, qui était son compagnon, avec son compagnon Scholem, si souvent il dialoguait. Comment l'inscrire dans cette série? Là, on y est, Georges Didier Huberman, on est dans ses thèses, le concept d'histoire, la neuvième, qui en réalité n'est pas une thèse, comme vous le dites, est une description, qu'elle-même n'est pas une description, c'est une narration. Écoutez, il faut que je la lise, hein, parce que on est à la radio,
bien sûr.
Et donc il faut que tout le monde puisse se rendre compte de ce dont on parle. Il existe un tableau de Paul Klee qui s'intitule « Angelus Novus ». Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé.
Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Vous le citez, évidemment, vous le commentez après d'autres.
Et en plus, je crois que il faut tenir compte de la série Paul Klee, dont vous avez bien parlé à l'instant. Il faut aussi tenir compte de la série Benjamin.
Oui.
Et la série Benjamin, c'est en fait aussi les images qu'il a commenté lui-même et qui l'entourait dans son espace de travail. Il y avait en effet, partout là où il a travaillé, l'Angelus Novus. Juste à côté, il y avait la Melancholia de Dürer. Je ne suis pas d'accord avec les commentateurs qui ont dit que c'était la même chose.
Non,
c'était
pas la même chose.
Non. Cet ange me semble plutôt la réponse à la mélancolie, même si la mélancolie, c'est un personnage ailé. Il a des ailes d'ailleurs, le personnage de la mélancolie de Dürer, il a des ailes disproportionnées, qui fait plutôt penser à l'albatros de Baudelaire. Hein. Et la question que j'essaye de soulever, c'est qu'est-ce que c'est des ailes pour ne jamais pouvoir s'envoler, ce qui correspond aussi à une autre image de prédilection chez Benjamin, c'est l'image de l'espoir, spes en latin, c'est-à-dire au féminin, c'est un personnage féminin que l'on trouve chez Giotto, chez Andrea Pisano, et il la commente dans Sens Unique, il la commente, oui, en disant elle a des ailes et malgré ça, elle peut pas atteindre le fruit qu'elle désire. Alors dans une version,
c'est la porte du pâtissier de Florence.
Médiéviste, là, dans version, c'est une couronne chez Giotto, et dans l'autre, c'est un fruit.
C'est un fruit sur la porte du baptistère. Voilà. Vous en parlez dans votre livre, Jean-Louis Lieberman.
Série Benjamin. Mais en même temps, il faut bien voir que là, le fait de faire intervenir au milieu de ces thèses, disons, une image lui sert à déconstruire tous les conformismes conceptuels. C'est-à-dire, c'est toujours important.
C'est pour ne pas faire doctrine, en fait.
Voilà, quand vous êtes avec les philosophes, il faut introduire une image sensible pour déconstruire leur doctrine. Hein. Mmh. Quand vous êtes avec les historiens de l'art, il faut introduire un problème philosophique qui fait bouger un peu les certitudes historiques. Hein. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Il y a au moins trois conformismes qui sont déconstruits par la présence de cette image dans les thèses. Il y a le conformisme politique, marxiste. Il y a le conformisme chrétien de l'ange de l'Apocalypse, la tradition Saint Jean, Saint Paul, puis ça va jusqu'à Heidegger et Carl Schmitt, donc voilà. Et puis, il y a le conformisme juif lui-même, bien que ce que revendique Benjamin partout dans sa correspondance, c'est que c'est un ange juif.
Oui. Et c'est là toute la difficulté, évidemment, et la beauté de l'interprétation, Jeanne-Bathilde Lacour, parce que cet ange aux ailes repliées, en tout cas qui ne s'envole pas, qui a peut-être atterri à nos pieds, là où s'amoncellent les ruines, il est là pourtant pour nous partager quelque chose comme une joie de l'immanence.
Oui, et puis peut-être pour nous... Peut-être qu'il est sur le point de nous dire quelque chose. On ne sait pas quoi, évidemment, mais...
D'abord, il a la bouche ouverte, contrairement à la plupart des anges de Klee qui sont juste barrés.
Alors, c'est souvent juste un trait, ouais. Alors, parfois un trait légèrement souriant, mais c'est souvent juste un trait. Là, on a une bouche très charnue. D'ailleurs, la seule autre occurrence de cette bouche, mais qui est fermée, c'est dans un ange de l'Ancien Testament qu'on va la retrouver. En 39 aussi. Mais là, cette bouche, elle est largement ouverte. Elle découvre des dents. Alors, c'est pareil, certains historiens de l'art ont voulu y voir quelque chose de menaçant. Mais pour moi, c'est des dents très écartées. Elles sont toutes petites, elles sont un peu de gargouin. Elles ressemblent un peu à des dents d'enfant.
Est-ce que c'est vrai qu'à un moment, il l'avait mis à côté d'une photo de son fils ?
Benjamin l'avait mis à côté de la photo.
Tout à fait,
oui.
Tout à fait.
À peu près à cet âge-là, enfin à l'âge où on a les dents un
tout
peu,
à fait.
Un peu
oui,
écartées.
Bah, quand Benjamin achète Langelus Novus, son fils a dans les deux ans.
Oui.
Il est né dans 2-3 ans. Et à peu près au même âge, Clé, dans ses carnets, et notamment dans le journal de son fils, le Félix Calendar, qui tient depuis la naissance de son fils, il va dessiner les dents de Félix. Parce que Clé, il a toujours été très très attentif à son enfant. C'est lui qui s'en est occupé quand il est né, pendant que Lily Clé donnait des cours de piano pour subvenir aux besoins du foyer. Donc il a vraiment observé son bébé grandir. Il l'a écouté. Il a énormément écouté. Il a noté ses babillages. Et il a donc suivi vraiment l'évolution de langage. Et il s'est interrogé à un moment, quand les dents poussent justement, ce que ça pouvait faire sur l'évolution de langage et sur le fait qu'à ce moment-là, commençait à apparaître vraiment des phrases et plus seulement ce babillage.
Évidemment, le rapport entre Benjamin et l'enfance, Georges Didier Huberman, il est tellement essentiel.
C'est essentiel, mais je dirais qu'en amont de ça, pour rebondir ce que vous venez de dire, il y a la question de ce que j'appelle le volatile. C'est-à-dire, cet ange, il est entre deux disparitions, je dirais. Mais d'ailleurs, regardez, quand vous faites un rythme, si je tape sur la table,
allez-y.
Hein, je me permets.
On ne doit pas faire.
Qu'on va,
studio,
oui, on ne doit jamais le faire à la radio. Mais quand je tape sur la table, avant de taper, il y a un silence. Je suis en grec, on dit tessis quand on tape, mais quand on est en l'air, c'est arsis. Et ben, quand je tape, je suis entre deux moments de arsis. C'est-à-dire, il y a une apparition, c'est toujours quelque chose qui apparaît entre deux disparitions. Ce qui fascine Benjamin, probablement dans cette image, c'est le côté passante. Vous savez que son poème préféré, c'était La Passante de Baudelaire, à une passante, c'est-à-dire celle qui apparaît pour disparaître. Et qu'à la différence des anges de Dürer, qui soit sont écrasés au sol, soit assassinent tout le monde avec leurs épées dans les scènes d'Apocalypse, c'est un ange qui est fait pour disparaître.
Jedes Mal, wenn ich heimkehre in mein Land, nach einer langen Reise, ist das Erste, was ich tue, mich erkundigen, wer gestorben ist. Jeder Mensch ist ein Held, einfach weil stirbt. Und Helden sind unsere Vorbilder. Und als nächstes
N'arrêtez pas de prendre des notes, Georges Didier Huberman.
Ben, je vous écoute, c'est très intéressant, donc ouais. Prends des notes.
Oui, mais c'est des notes qui sont aussi en même temps, ben, comme on les connaît, hein, vous les exposez parfois, presque des œuvres d'art un peu enfantines. En tout cas, là, c'est pas sans rapport. Continuons sur l'enfance, si vous voulez bien. L'enfance et Benjamin.
Alors, le rapport de Paul Klee à l'enfance, je vais peut-être vous laisser en parler, c'est vraiment tellement considérable. D'ailleurs, dans la vie d'un spectateur, moi quand j'étais petit, j'adorais Paul Klee, voilà. Et puis dans les âges où on commence à se prendre au sérieux, Paul Klee disparaît un peu et il revient comme quelqu'un de tellement fondamental, vraiment.
Donc c'est là-dessus, vous pensez, Jeanne-Bathilde Lacour, qu'ils se rencontrent, si j'ose dire, sur ce sentiment de l'enfance?
Je pense que oui, il y a quelque chose autour de cette idée de pas céder sur la découverte ou l'ouverture à l'inattendu. Enfin, que ce que vous dites dans votre livre, hein, que chaque expérience infantile, ou ce que Benjamin veut dire aussi, que chaque expérience est quelque chose de nouveau et quelque chose d'inattendu et une découverte. Et il avait besoin de cette découverte, Paul Klee, au début de sa carrière, parce qu'il a suivi un cursus très académique. À Munich, il a fait le grand tour en Italie, comme tous les artistes de sa génération, et il en est revenu absolument affligé.
La possibilité même de l'art.
Possibilité de créer, en fait. Oui,
mais il y a eu la Tunisie aussi.
Et il y a eu la Tunisie, mais c'est après.
C'est plus tard.
Ce que je voulais évoquer, ouais. Qui est que donc totalement affligé par son incapacité à renouveler, à créer après cette éternelle répétition du même qu'est l'académisme qu'on lui a enseigné, il est retourné chez ses parents à Berne, et à cette période de crise, il est retombé sur ses propres dessins d'enfant, qui avaient été soigneusement conservés par sa sœur.
Pour lui, ça fait partie de son œuvre, en fait.
Pour lui, ça fait partie de son œuvre. Il va les inscrire à son propre catalogue raisonné plus tard. Et d'ailleurs, je note qu'il a donc conservé ses livres, ses œuvres, les a exposées. Par contre, il a totalement écarté ceux de l'adolescence, justement.
Ah oui. Et là, Georges Didier Merman, évidemment, l'ouverture à Benjamin, elle est évidente.
Alors, il faut se souvenir que Benjamin, il a fait sa thèse sur le romantisme, que c'est quelqu'un qui intègre les acquis, en quelque sorte, du romantisme allemand. Il y a un moment extrêmement important, je pense, dans l'histoire de l'esthétique en général, c'est le livre de Schiller sur la différence entre poésie sentimentale et poésie naïve. C'est 1795. Peter Zondi le considérait comme le moment de charnière, pivot de l'histoire de l'esthétique en Europe à cette époque-là. Il y a Goya qui est pas loin. Et l'argument, c'est de dire la poésie sentimentale, c'est une poésie élégiaque. Oh là là, j'ai eu un amour, c'est perdu. Et la poésie naïve, elle est là. Elle est dans une espèce de fausse immédiateté. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des enfantillages. Oui. Nous ne sommes plus des enfants, mais nous devons nous souvenir de l'enfance en nous. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment l'utopie politique de l'enfance, à mon avis, qui a lieu chez Benjamin, parce que dans les notes pour ces fameuses thèses sur le concept d'histoire, Benjamin dit très clairement que les enfants, ce sont eux qui rédiment, ce sont eux les véritables rédempteurs. Ce ne sont pas des anges envoyés par Dieu avec des glaives et tout ça, ce sont juste des enfants. Et alors, pensez à plus loin, c'est-à-dire pensez à Garcia Lorca, par exemple, et cet autre poète de l'innocence qui est Pasolini, par exemple. Oui. Donc, on a quelque chose là qui, en dehors de toute ingénuité un peu naïve comme ça, serait de mettre la question politique du côté de l'enfance.
Du côté de l'enfance, en tout cas, du côté, Jeanne-Bathilde Lacour, de celui qui ne sait pas. C'est-à-dire que Paul Klee dessine ou peint depuis... Je ne veux pas dire une position de non-savoir, mais en tout cas une connaissance consciente de ses limites. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'intéresse aussi à l'art asilaire, au fou.
Ouais, alors Paul Klee, il a toujours eu une position très équivoque par rapport au savoir, justement. C'est-à-dire qu'il a pu écrire, et ça a été le titre de l'exposition au Centrum Paul Klee à Berne, Ich will nichts wissen. Alors, on ne sait pas s'il faut traduire par je ne veux rien savoir ou je veux ne rien savoir. Mais il y a effectivement une méfiance vis-à-vis du savoir, d'une forme de savoir descendant qui empêcherait la créativité. Mais en même temps, lui aussi revendiquait, il savait, il affirmait qu'il n'était plus un enfant, qu'il ne faisait pas des enfantillages. Donc il était vraiment dans cette forme de dialectique, justement. Et c'est à peu près la même position qu'il avait par rapport à d'autres formes de création marginales à l'époque. Et en particulier, donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art asilaire, ce que André Breton appelait l'art des fous, qui était peut-être plus joli malgré tout. Il s'y a intéressé très tôt, dès avant-guerre, en fait. Et il s'est aussi intéressé à la collection Prinzhorn, donc, qui est la collection réunie par ce personnage. Alors, il a un parcours rocambolesque aussi, un peu à la Benjamin, d'ailleurs. Il a été historien de l'art. Ensuite, il a fait des études de médecine, notamment au moment où sa femme a sombré dans la folie. Ensuite, il a travaillé à cette collection à la clinique de Heidelberg. Et Paul Klee avait connaissance de ses œuvres. Le livre qu'a publié Prinzhorn était disponible au Bauhaus, et puis il a fait toute une série de conférences à peu près à ce moment-là, vers les années 1920-1922.
Alors on comprend bien, à vous entendre et à vous avoir lu, Georges Didier Huberman, je rappelle qu'on parle autour de votre livre « Les anges de l'histoire », image pourtant inquiet, qui vient de paraître aux éditions de Minuit, que cet ange-là, l'ange dont on parle, l'ange de Paul Klee, il n'est pas plombant, c'est pas celui de Dürer. Enfin, quand même, il se situe entre deux catastrophes et il nous pose une question qui, vous l'avez dit, depuis l'enfance, est une question politique. Alors, on va y venir, mais pour cela, on va y venir par un petit détour, qui est la carte postale que nous concocte tous les semaines le directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, Mathieu Poit-Bonneville.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, ses yeux comme ses bras sont largement ouverts et son regard fixe le nôtre avec un effarement figé, cependant qu'il s'éloigne, implacablement attiré vers le fond de l'image où le futur l'attend. Son corps même fait pont entre l'éternité qu'il s'apprête à rejoindre et le temps des horloges, symboliquement d'ailleurs s'il tombe, car il tombe, c'est que le bracelet-montre auquel il se retenait vient d'être détaché par Bruce Willis en maillot de corps. Oui, pardon, j'aurais dû préciser. Lui, ce n'est pas l'ange de l'histoire tel que peint par Paul Klee et décrit par Walter Benjamin. Lui, c'est l'acteur Alan Rickman, incarnant en 1990 le personnage du méchant Hans Gruber dans le film Die Hard de John McTiernan, et tombant de la tour où se déroule l'intrigue. Image saisissante à plusieurs titres. Pour assurer un ralenti impeccable, la cascade fut filmée en 270 images secondes, réalisé par l'acteur lui-même qui devait se laisser tomber en arrière d'une hauteur de 8 mètres, et même anticipé par l'équipe de tournage qui, après avoir annoncé qu'elle compterait jusqu'à 3, coupa la corde à 1 pour que Rickman ait l'air plus sincèrement surpris. Mais si la mort de Gruber est saisissante, c'est surtout parce qu'elle vient clôturer un siècle où le cinéma n'a cessé de mettre en scène des personnages frôlant une chute mortelle, comme si l'image en mouvement avait été dès sa naissance attirée vers le vide jusqu'à 100 ans plus tard y succomber enfin. Si l'on voulait un jour dresser une brève histoire des gouffres, celle-ci devrait faire une place toute spéciale au 6e épisode du feuilleton muet The Perils of Pauline, qui, dès 1914, voyait cette riche héritière désemparée à flanc de falaise, en anglais « cliff », donnant ainsi naissance, l'expression vient de là, au premier cliffhanger de l'histoire des séries, avant que le trope se généralise, que Harold Lloyd titube sur les corniches new-yorkaises ou que Cary Grant et Eva Marie Saint se retiennent au visage de pierre du mont Rushmore, avant tant d'autres à pic et tant d'autres gratte-ciels. Jusque-là, toutefois, les images se distribuaient en deux groupes distincts. Il y avait les chutes effectives, montrées latéralement, chute de King Kong en 1933, chute de Kim Novak dans Vertigo en 1958. Et il y avait ceux qui manquaient tomber, filmés en gros plan. James Stewart roulant des yeux pendu à une gouttière dans Vertigo encore. Dans Die Hard, la chute de Rickman croise les deux séries. Et en faisant tomber l'acteur, les yeux dans nos yeux et dans l'axe du plan, elle donne un visage à l'abîme lui-même. En somme, c'est la chute finale. Or, cette même année 1990, une autre scène lui fit pendant. Dans le film Trust, Hal Hartley filme un bouleversant duo amoureux où une très jeune fille, jouée par Adrienne Shelley, s'interrompt brusquement pour aller se jucher sur un plot de béton quelques mètres au-dessus du trottoir et se laisser tomber en arrière, visage apaisé, bras en croix, comptant sans le prévenir sur son amant resté en contrebas pour la rattraper au vol et au dernier instant. Même posture, accueillant à bras ouverts le spectateur, même plongeon vers le fond de l'image, mais que rédimait cette fois la confiance et l'espoir. C'était la fin du XXe siècle. C'était avant que les tours elles-mêmes se mettent à tomber. Aujourd'hui, Alan Rickman est mort, Bruce Willis aphasique, Hal Hartley injustement oublié. À vrai dire, Patrick, on ne voit plus très bien ce qui pourrait amortir notre chute.
Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt.
France Culture.
Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff,
allons-y voir,
zu entfernen, worauf er starrt.
Patrick Boucheron.
On ne voit plus très bien ce qui pourrait amortir notre chute. Georges Didier Huberman, vous écrivez un peu contre ça.
Oui, il faut, on chute, tout le monde chute, on tombe, ça tombe. Et il faut changer de terrain et sauter. Oui. Aller sauter ailleurs. Voilà. Peut-être je dois préciser que c'est la première fois de ma vie que j'écris un livre où à la fin je me dis mais il y a quelque chose qui est resté non dit et que je me sens obligé de faire une préface a posteriori, ce que je n'ai jamais fait. Oui. Et la préface dit tout simplement que ce livre qui a l'air donc d'un commentaire assez pointilleux sur une seule thèse de Benjamin, c'est un après-coup du 7 octobre et de tout ce qui a suivi le 7 octobre 2023. Oui. C'est-à-dire, ce qui m'a accablé en particulier, c'est la généralisation des légitimités théologiques de ce que les gens faisaient d'immonde en politique. C'est-à-dire Trump, les évangéliques, Poutine, Kirill, Netanyahou, les ministres messianiques, le Hamas, le Cheikh Yassine, etc., etc. C'est-à-dire que c'est absolument assez effrayant. Et on voit bien là un désir d'apocalypse. Apocalypse, ça veut dire destruction et révélation. Il ne faut pas oublier ça.
Ah oui.
Donc, on attend que tout soit détruit pour pouvoir révéler quelque chose de nouveau. Et plus je lis Saint-Jean et plus je lis Saint-Paul, plus je les déteste, je suis désolé de le dire, plus je les trouve détestables, ces textes.
Alors déjà,
des textes qui appellent à la vengeance, en fait.
Ouais, c'est ça. Déjà en 2009, non, Survivance des Lucioles, je le disais au départ, vous débattiez avec Giorgio Agamben et derrière lui, Carl Schmitt, c'est-à-dire au fond, le théologico-politique. Et là, évidemment, vous venez de nous dire, mais c'est dans votre livre, effectivement, In Extremis, ce qui motive ce retour à la neuvième thèse sur le concept d'histoire de Walter Benjamin. Il y a aussi quelque chose de très beau qui est ce commentaire également lancinant chez Benjamin de cette phrase qu'il aimait tant de Kafka, il le partageait avec Scholem, il existe une quantité infinie d'espoir mais pas pour nous. Alors, on lit ça, on se dit, d'accord, il est complètement désespéré. Mais non, en fait.
Mais non, pas du tout. Dans la phrase d'après, il dit qu'il y a une joie illuminante.
Dans cette citation de Kafka qui dit, il existe une quantité d'espoir, mais pas pour nous.
Alors, il me semble que Paul Klee a exactement le même type de pathos. Et Benjamin comprend Paul Klee avec Kafka. Parce que quand il dit de Kafka, ce sont des contes, c'est-à-dire des choses pour les enfants, pour dialecticiens, on pourrait dire que pour Benjamin, Paul Klee, ce sont des images pour dialecticiens. C'est-à-dire des images, les images, c'est sages comme une nuage, c'est les gamins, c'est les gosses, les images. Un livre d'images, mais un livre d'images pour dialecticiens, c'est-à-dire qui donne à penser.
Jeanne Bathilde Lacour.
Oui, qui donne à penser, puis qui surtout n'impose pas une interprétation et n'écrase pas le spectateur de son savoir. C'est évident, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, par le biais du format. C'est quelque chose qui invite, ce sont des œuvres qui invitent à se pencher, à regarder, à prendre le temps d'observer les détails. Puis vraiment, même dans la posture de cet ange, on le voit, il n'est pas dominant. Je le disais, on ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Et puis il regarde de côté. Ce que dit bien Benjamin dans son texte. Et puis il y a toujours cette douceur justement aussi dans les teintes, même dans le tracé, qui est dû à la technique très particulière d'ailleurs de Paul Klee, qu'il a lui-même inventé. Hein. Il était très beaucoup dans la recherche aussi, dans la matière justement.
Enfin, cet espoir malgré tout, cette image qu'il prend avec lui pour les derniers jours de sa vie, qu'il prend mentalement, au moins, vous en faites une lecture magnifiquement entraînante, belle comme l'enfance, espérante comme l'enfance. Mais évidemment, on sait, et c'est dans votre livre également, Georges Didier Huberman, que tout ça nous mène au bord du précipice.
Oui, ben voilà, il faut... Oui. Il faut que les enfants... Il y a une quantité incroyable d'espoir, peut-être pas pour nous, mais alors donnons-la aux enfants.
Oui, alors les enfants, mais alors lesquels? Pour Benjamin, c'était aussi celui qu'il a été, celui qu'il ne voulait pas quitter. C'était pas seulement...
Les enfants...
Seulement l'avenir.
Oui, parce qu'en fait, ça devient une sorte de concept politique, parce qu'il dit très bien que les enfants sont les représentants de la tradition des opprimés. C'est quand même extraordinaire ce qu'il dit là. Donc il a quelque chose avec l'enfance qui va au-delà de la seule tendresse qu'on peut avoir pour un petit garçon.
Oui, mais vous savez aussi ce que disait Günther Anders en fait de cet Angelus Novus de Paul Klee, c'est-à-dire que, contrairement à ce que voyait Benjamin, qui le voyait effectivement ouvrir les yeux vers le passé, et voilà ce qu'on a dit. Il dit non, il ferme les yeux en fait. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. Il est au présent. Vous n'êtes pas d'accord, Jeanne-Baptiste Lacour? Enfin, d'ailleurs, objectivement, il ne ferme pas les yeux.
Non, il ferme.
Il les ouvre. Oui.
Il ne ferme pas les yeux. Puis moi, j'ai encore envie, du coup, de faire un clin d'œil, si je peux dire, aux anges des années 39-40, qui sont vraiment des anges du possible, chez Klee, en fait. Ce sont des anges en devenir. Il y a un ange sur le point de s'envoler. Enfin, ils sont toujours des anges sur le point de quelque chose.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange.
Bonjour Julia Poumain.
Bonjour Patrick Boucheron.
Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui?
Vous vous souvenez du film Les ailes du désir de Wim Wenders, qui est sorti en 1987?
Bah oui.
Mmh.
Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht.
Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden.
Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Ich weiß jetzt, was kein Engel weiß.
Je sais à présent ce qu'aucun ange ne sait. Dans Les ailes du désir, on suit deux anges, Damiel et Cassiel, qui circulent dans le ciel et dans les transports de Berlin. Ils entendent les pensées de ses habitants. Dans un cirque, l'ange Damiel entend les pensées d'une trapéziste Marion. Et pour faire l'expérience de l'amour avec elle, il choisit de devenir homme. Un ange chute. Damiel, déterminé, s'exclame « À moi-même de me conquérir une histoire. J'ai été assez longtemps hors de l'histoire, en route. » Damiel croise aussi un vieillard fragile prénommé Homer, dont il entend les pensées. Homer regrette le temps des veillées, où l'on faisait cercle autour des compteurs, pour écouter des histoires. Il est l'ange du récit, ce sont ses mots. Engel der Erzählung. Si je renonce, l'humanité perdra son compteur.
Homer, mais qu'est-ce que vient faire Homer dans Les ailes du désir?
Homer, dans Les ailes du désir, nous dit l'intention du réalisateur Wim Wenders de faire du médium cinéma le compteur de notre présent, cet ange du récit dont nous avons besoin, collectivement. Commentant la thèse de Walter Benjamin sur l'ange de l'histoire dans votre « Survivance des Lucioles » paru en 2009, cher Georges Didier-Berman, vous disiez que « l'image est un opérateur temporel de survivance ». Une apparition unique, précieuse, quand bien même elle n'est que fort peu de choses, choses qui brûlent, choses qui tombent. Wenders montre exactement cela. L'image de Damiel qui chute est l'étincelle. Le film capture son accès au désir. Pour illustrer encore cette idée de l'image comme chose qui brûle, tournons-nous vers un deuxième film, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, sorti en 2019. La scène se passe en 1770. Une jeune femme, Marianne, exerce le métier de peintre. Elle rejoint une demeure reculée pour y exécuter le portrait d'une autre jeune femme, Héloïse. Portrait de la jeune fille en feu raconte comment, dans le temps pourtant bref d'exécution du tableau, toutes deux prennent feu l'une pour l'autre. Leur rencontre est intense. Elle advient après une nuit de chant autour d'un feu sur la plage où les étincelles, comme autant de lucioles, parsèment l'écran. Leur histoire ne dure que quelques jours, la peintre devant quitter les lieux dès le portrait achevé et livré. Leur adieu arrive vite et elle s'y prépare. Les images leur permettent de garder la trace de ce qui est advenu. Outre le portrait officiel, Marianne peint un petit portrait en médaillon d'Héloïse, pour elle-même. « C'est elle que vous verrez quand vous penserez à moi », lui dit son amante, touchant à une des définitions anthropologiques de l'image les plus universelles. L'image est ce qui est présent quand celui ou celle qu'elle représente est absente. En réponse, la peintre saisit le livre d'Ovide que son aimé tient à la main et y dessine, à la page 28, son autoportrait nu. Ainsi, chacune conserve une image de l'autre.
Chacune repart avec l'image de l'autre, d'accord, mais comment s'achève ce film, qui est un film, je m'en souviens, plein de peintures?
À la toute fin du film, la peintre raconte que plusieurs années plus tard, elle a revu Héloïse. Dans quelles circonstances? En peinture, dans le salon du Louvre, parmi d'autres toiles, trône un double portrait d'une femme et de son enfant. Marianne y reconnaît Héloïse devenue mère. Elle s'approche et remarque un détail. Dans la peinture, Héloïse est représentée un livre à la main. On distingue nettement qu'il est entrouvert à la page 28. Il s'agit du livre d'Ovide et de la page où Marianne s'était dessinée. Pour le dire avec vos mots, cher Georges Didier-Berman, il s'agit là d'un savoir luciole. savoir clandestin, hiéroglyphique. Ce tout petit chiffre 28 est à la fois discret et en plein milieu du tableau. Il dit qu'Héloïse est autant cette mère qui pose avec son fils que la femme restée fidèle au sentiment amoureux qu'il a enflammé. La déclaration est chiffrée, au sens propre comme au figuré, dans ce tableau qui représente et cache tout à la fois la vérité la plus profonde d'un être. Toujours en commentant Benjamin, vous dites qu'il faut comprendre la survivance des images pour leur ressource de désir, que Benjamin répondait aux chutes de l'expérience par des images de pensée et par des expériences d'images. Quand Siama filme la manière dont Héloïse et Marianne se fient à la peinture, à leurs expériences d'image, pour continuer de faire vivre ce qu'a représenté leur rencontre, elle semble faire écho à la voix off de la trapéziste des ailes du désir qui veut, je la cite, « pouvoir dire simplement « j'ai une histoire et je vais continuer à en avoir une ». Et si le cinéma nous aidait à comprendre Angelus Novus comme une figure qui nous interpelle et nous dit « j'ai une histoire et je vais continuer à en avoir une ».
Merci beaucoup.
Je c'est continue. Beau. Ouais, c'est toujours ça. Hein. C'est la clé de clé.
C'est la clé de clé. C'est essayer de peindre une apparition, un passage. Et quand on est écrivain, de raconter une histoire, d'écrire l'histoire.
Oui.
C'est vraiment le problème. Et que donc, vous avez parlé d'ange du récit. C'est tout à fait ça. Et le texte de Benjamin sur le conteur, il nous permet aussi de comprendre comment on regarde une œuvre comme ça. Il nous permet de comprendre Kafka en tant que prophète. Et je dirais, on est parti tout à l'heure de la notion d'image de pensée, Denkbilder.
Oui. Oui.
On aboutit à quelque chose comme une image de désir, Wunschbilder dont parlait Ernst Bloch.
Et tout ça sont des images en mouvement. C'est pour ça que, évidemment, il y a la nécessité, ce qu'on fait depuis 10 minutes, là, de passer par le cinéma.
Ah, images, c'est mouvement.
Oui.
Et des images en couleur aussi. Et c'est ça qu'on peut retenir des ailes du désir de Wim Wenders. C'est que l'ange chute, mais il passe à la couleur aussi. Quand il laisse place à son désir, justement, et la couleur, elle joue un rôle majeur dans le travail de Paul Klee. Il se revendiquait vraiment comme un coloriste. Et on peut noter que parmi les œuvres les plus colorées qu'il ait faites, c'était justement pendant la guerre.
Julia Pouma.
Oui, je voulais dire qu'il y a une très belle expo au Bode Museum qui a marqué les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été organisée par Neville Rollet, où cette connexion entre Wim Wenders et ses anges et Benjamin a été faite, puisqu'au début du film, on cite littéralement Benjamin et Angelus Novus quand on entre dans la Stabi de Berlin.
Dans la bibliothèque, oui.
Georges Didier Huberman, je ne vais pas vous demander le mot de la fin parce que vous n'aimez pas ça.
Il n'y a pas de mot de la fin, mais cette histoire de couleur, elle est très très importante, hein, parce que Benjamin lui-même a une théorie de l'imagination, hein, dans ses fragments posthumes, où ce qui est au centre, c'est la couleur. Et il dit la couleur des enfants, c'est la couleur rouge. Il aime beaucoup la couleur rouge, ce qui nous met du côté à la fois des jeux enfantins et du drapeau rouge.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Jeanne-Bathilde Lacour, Georges Didier Huberman et Julia Pouma. Les références de vos livres, de vos parutions, sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son d'Ali Yaha et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.